Merci d'écouter Radio France Internationale. Nous sommes en direct de Paris. Il est 22h.
Raphaël Rennes.
Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour votre journal en français facile, en compagnie ce soir de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Dans l'actualité ce dimanche, les électeurs mexicains qui sont appelés aux urnes, des élections législatives et locales, un vote en forme de test pour le président Obrador qui en est à la moitié de son mandat.
Au Pérou, c'est le président qui est élu ce dimanche. Le second tour oppose la candidate de la droite populiste à celui de la gauche radicale et le vote s'annonce serré.
Les adolescents peuvent désormais se faire vacciner contre le coronavirus en Israël. C'est possible pour eux dès l'âge de 12 ans. Reportage à Jérusalem dans cette édition.
Et puis Roger Federer déclare forfait. Serena Williams est éliminée du tournoi de tennis de Roland-Garros à Paris. Nous appellerons Olivier Pron sur place pour suivre le match en cours entre Alexander Zverev et Nishikori à la fin de ce journal.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
Plusieurs élections ont eu lieu ce dimanche au Mexique.
Il y a des élections législatives d'abord. Les 500 députés de la Chambre sont renouvelés. Des élections locales ensuite, puisque 20 000 postes régionaux sont à pourvoir, ainsi que 15 des 32 sièges de gouverneurs que compte le Mexique. Reportage dans l'un des bureaux de vote, Gwendolina Duval.
Tôt ce matin, ils sont déjà une quarantaine d'électeurs à faire la queue devant ce garage qui fait office de bureau de vote dans le quartier de La Romita à Mexico. Dans la file d'attente, les employés de l'Institut National Électoral vérifient les identités de tout le monde. Sur un des registres, Mariana Vasquez vient de repérer son nom et sa photo.
C'est important d'aller voter en étant bien informé, car je crois que c'est loin d'être le cas pour la grande majorité des électeurs. Il y a beaucoup d'achats de votes. Malheureusement, au Mexique, la corruption est un problème profondément enraciné.
Les Mexicains votent à l'issue de la campagne la plus violente de leur histoire. Plus de 780 agressions politiques ont été enregistrées. Une situation qui incite Alfonso Carrillo à se déplacer pour donner son vote.
Les partis politiques sortants et qui sont de fait défavorisés font beaucoup la guerre jusqu'à commettre des assassinats. Nous sommes en transition, les gens ont la volonté de changer et d'éliminer la corruption.
C'est justement le cas d'Agustín Trifundio, il vient de déposer 3 bulletins dans l'urne. Deux pour des députés et un pour la municipalité.
Nous devons complètement renouveler nos assemblées et nos mairies avec des personnes qui peuvent vraiment aider le peuple mexicain, des personnes issues du peuple.
Tandis que le parti présidentiel est donné favori des sondages, les résultats seront annoncés dans la soirée. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Il y a aussi une élection au Pérou, Raphaël, ce dimanche, élection présidentielle cette fois, et les résultats s'annoncent serrés.
Le second tour oppose la candidate de la droite populiste, Keiko Fujimori, à celui de la gauche radicale, Pedro Castillo. Les derniers sondages donnaient une très légère avance à Pedro Castillo, mais les dernières élections législatives au Pérou n'ont donné de majorité à aucun parti. Le futur président, quel qu'il soit, devra donc trouver des compromis pour gouverner. Les premiers résultats officiels devraient être annoncés à 23h30, heure locale, 4h30 en temps universel.
Deux attentats à la bombe ce dimanche en Afghanistan.
Dans l'ouest du pays, c'est un bus de passagers qui était visé par une bombe dissimulée sur la route. 11 civils ont été tués, dont 4 femmes et 3 enfants. L'attaque n'a pas été revendiquée. Et puis dans le nord de l'Afghanistan, un poste de police a été pris pour cible. Une voiture piégée dont l'explosion a fait 2 morts parmi les policiers. Les talibans, là, ont revendiqué cette seconde attaque.
En Irak, 2 drones ont été interceptés et abattus au-dessus d'une base irakienne abritant des soldats américains.
Depuis le mois d'avril, les forces de la coalition internationale en Irak font face à ces attaques par drones. Elles sont plus dangereuses que les roquettes qui visent la coalition depuis près de 2 ans. Plus dangereuses parce qu'il est plus difficile de trouver d'où les drones ont été lancés. Mais les milices pro-iraniennes sont pointées du doigt. Lucille Wasserman.
C'est le système de défense anti-aérien américain qui a pulvérisé dans les airs cette nuit les 2 drones qui survolaient la base d'Aïn al-Assad à l'ouest de l'Irak. L'attaque est un échec, mais inquiète. Car si les soldats américains basés sur place sont régulièrement visés par des tirs de roquettes, l'utilisation de drones est quant à elle plus récente. La première attaque du genre a été observée en avril dernier, lorsqu'un de ces aéronefs a visé un hangar de la CIA dans la zone de l'aéroport d'Erbil au nord du pays. Une attaque similaire a également eu lieu en mai dernier sur cette même base militaire visée cette nuit. Elles n'ont pas été revendiquées, mais l'armée irakienne accuse les milices pro-Iran. L'inquiétude ne porte pas tellement sur les dégâts causés lors de ces attaques qui restent limités, mais plus sur la capacité de ces groupes armés à développer et adapter de nouvelles tactiques pour atteindre leurs cibles. Le nombre d'attaques a quelque peu diminué depuis l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis, mais régulièrement les milices menacent d'accroître la pression sur les troupes américaines qu'elles souhaitent voir partir du territoire. Lucille Wasserman, Bagdad, RFI.
En Israël, la campagne de vaccination contre le Covid-19 est désormais ouverte aux adolescents.
Depuis ce dimanche, les enfants âgés de 12 à 15 ans et qui pourraient ressentir de graves symptômes de la maladie peuvent être vaccinés en priorité. Les familles qui prévoient de voyager à l'étranger sont également prioritaires, a indiqué le ministère israélien de la Santé. En tout, cela concerne environ 600 000 adolescents. Alors, comment se passe cette vaccination ? Reportage à Jérusalem de Michel Paul.
Un petit moment de crainte. Et voilà, Yossi Guggenheim, 12 ans et demi, a reçu la première dose du vaccin Pfizer. Nous sommes dans un dispensaire de la caisse d'assurance maladie Meuchedet à Jérusalem. La campagne est ouverte à tous les adolescents de 12 à 15 ans, mais à ce stade, c'est au compte-gouttes qu'ils sont venus. Pour Chaim Guggenheim, le père de Yossi, c'est une démarche tout à fait naturelle.
Nous sommes tous vaccinés, toute la famille. Lui il est le dernier qui n'est pas. Maintenant, grâce à Dieu, on a fait. Je crois que c'est obligatoire de tous se vacciner si on peut.
Beaucoup d'inquiétudes sur les risques de myocardite. Réhout Israël, l'infirmière en chef chargée de la vaccination, se veut rassurante.
L'étude du ministère de la Santé montre que le danger existe, mais qu'il est très faible, très inférieur en tout cas, au risque qu'un adolescent court d'être atteint du Covid-19.
En tout cas, en attendant, le jeune Yossi a totalement récupéré après un quart d'heure de repos obligatoire. Question: pourquoi a-t-il choisi de recevoir l'inoculation sur son bras droit ? Demain, on a un contrôle de connaissances. Comme ça, je vais dire au prof que je ne peux pas écrire. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et en France, Raphaël, les chiffres de la pandémie restent stables aujourd'hui.
Les deux patients de plus sont en réanimation ce dimanche à cause du coronavirus. Par rapport à hier, samedi, à la même heure, ils sont précisément 2527 à être en soins intensifs.
Et le tennis, pour refermer ce journal, les huitièmes de finale ont commencé à Roland-Garros.
Avec deux surprises ce dimanche aux Internationaux de Paris, deux départs. Le Suisse Roger Federer abandonne le tournoi, il déclare forfait, et l'Américaine Serena Williams quitte le tournoi, elle a été éliminée. À Roland-Garros, on retrouve Olivier Pron. Bonsoir Olivier.
Bonsoir, Roger Federer vient de téléphoner, il n'aime pas du tout que vous l'appeliez Roger, hein. Il dit tout de suite, hein. J'ai dit qu'on allait rectifier, je suis étonné que Mme Berruen ne l'ait pas encore fait.
Écoutez, il sera Roger Federer pour ce soir, mais sur le court central maintenant, Olivier, il y a l'Allemand Alexander Zverev et le Japonais Kei Nishikori.
Oui, et pour l'instant, la bagarre qu'on annonçait, elle tourne plutôt court et elle est en faveur du genou. Décidément, c'est genou, hein. On commence à les trouver sur le circuit de plus en plus. On va surveiller ça de près toute la semaine qui arrive parce qu'il va y avoir une belle bagarre à suivre entre les anciens qui sont quand même toujours là et cette génération qui arrive. Ce soir, donc, c'est Alexander Zverev, numéro 6 mondial, qui est face à Kei Nishikori. Zverev a 24 ans, Nishikori 31 ans. Les 7 ans, il se voit un peu, d'autant que Kei Nishikori a été opéré, on l'a dit, en 2019 du coude, donc il est redescendu un petit peu au classement. Alors il avait très mal démarré, il était mené 3-0, il avait réussi dans le premier set à revenir à 4 partout, et puis finalement il a craqué 6-4 en faveur de Zverev pour la première manche, et puis Zverev il continue à dérouler plutôt pas mal dans la deuxième, puisqu'il mène 3-0, il a pris deux fois le service de Kei Nishikori, donc très grosse option en vue des quarts de finale pour Alexander Zverev qui retrouverait mardi Davidovich Fokina. Ça, c'est la surprise de ce tableau. Davidovich Fokina, l'Espagnol, qui a dominé Delbonis, l'Argentin, il y a un peu plus d'une heure maintenant.
Merci Olivier Pron et saluer Roger Federer de ma part, s'il vous plaît.
Pas.
C'est la
pas.
Fin de ce journal en français facile. Restez à l'écoute de RFI.